On va aller parler avec Ève Dubé. Elle est anthropologue et chercheure à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. C'est une spécialiste de la vaccination, non pas sous l'angle de ce qu'on nous injecte, mais de nos perceptions face au virus. Madame Dubé, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, d'abord, vous êtes anthropologue. Avant de parler des vaccins, puis de la vaccination, puis de l'hésitation vaccinale, j'aimerais vous entendre sur le décès de celui qui était probablement l'anthropologue le mieux connu au Québec, Serge Bouchard, qui est décédé aujourd'hui.
Oui, bien, j'ai appris son décès avec grande tristesse, puis j'offre toutes mes condoléances à sa famille et ses amis. Je pense que l'anthropologie a perdu un grand ambassadeur. Les travaux de M. Bouchard ont permis de rendre familier le regard anthropologique aux Québécois, puis a aussi permis de se rendre compte qu'on peut appliquer ce regard anthropologique-là à nos propres sociétés modernes et pas juste aux sociétés exotiques qui sont habituellement là, les champs, les terrains des anthropologues.
C'est très bien dit. Et revenons à votre sujet d'intérêt. Vous, c'est la vaccination. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser comme anthropologue à la vaccination?
J'ai fait mes études de doctorat sur les programmes de réduction des méfaits, donc pas tout à fait dans le champ de la vaccination, mais sous l'angle des interventions de santé publique, puis des conflits entre les valeurs des populations, puis les valeurs mises en place par les programmes. Donc, par le fil des choses, je me suis intéressée à la vaccination au moment de déposer ma thèse. C'était l'arrivée du vaccin contre les virus du papillome humain, le VPH, donc un vaccin qui, on anticipait, allait susciter quelques enjeux d'acceptabilité. Donc, c'est par cette porte d'entrée-là que je me suis intéressée plus largement aux dimensions liées à la vaccination.
Et là, bon, vous vous retrouvez à l'INSPQ et vous travaillez là-bas, vous étudiez la vaccination et boum, on parle ces jours-ci, ces années-ci de vaccination comme on n'en a jamais parlé avant. C'est un terrain qui doit être très fertile pour vous présentement, là.
Tout à fait. Moi, de toute ma carrière, j'ai jamais vu des résultats d'un essai clinique de phase 3 faire la une des journaux à travers le monde. Donc, c'est vraiment fabuleux. C'est un vrai laboratoire. Puis, il y aura des leçons à tirer de cette pandémie-là là, pour plusieurs années à venir encore.
Qu'est-ce qui vous surprend pas dans les réactions multiples face à l'effort de vaccination?
Ben, je pense que globalement, l'intention de vaccination puis la réponse positive au vaccin au Québec elle est là. Tu sais, il y a 75% des gens qui n'ont pas été vaccinés encore qui disent qu'ils ont l'intention de se faire vacciner. C'est pas surprenant. Déjà à l'époque, avec la vaccination contre la grippe H1N1, on avait été une des provinces canadiennes qui avait obtenu les plus au taux de vaccination. Donc, c'est cette optique favorable-là de la population, je pense, me surprend pas. Par contre, ce qu'on observe avec la pandémie, c'est vraiment beaucoup plus de polarisation dans les discours, dans les approches. Donc, tu sais, c'est soit t'es pour les vaccins, soit t'es contre, puis il n'y a pas d'entre-deux.
Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce que vous aviez pas vu qui était dans votre angle mort?
Ben, on se préoccupait de la désinformation en ligne depuis déjà quelques années avant la pandémie, mais je pense que la montée fulgurante de toutes sortes de théories peu vraisemblables, ça m'a surpris. On m'a déjà demandé qu'est-ce que les raisons les plus farfelues, entre guillemets, pour lesquelles des personnes hésitaient à se faire vacciner. Puis, tu sais, je répondais toujours l'idée qu'on injecte une puce pour faire la dépopulation mondiale, puis ces questions-là, c'était très surprenant, mais maintenant, c'est une théorie qui circule abondamment dans les réseaux sociaux et qui n'est plus du tout farfelue ou inusitée. Là.
Bien, ça demeure farfelue, inusitée, mais c'est de plus en plus répandu.
Exact.
Est-ce que ça vous fait peur, le fait que, non, évidemment, il n'y a pas une majorité de personnes qui croient que les vaccins vont les tuer, visent à contrôler nos esprits ou la population, mais est-ce que ça vous inquiète comme anthropologue qu'il y a de plus en plus de gens qui soient exposés à ces théories-là?
Oui, parce qu'on sait que la façon dont les réseaux sociaux, entre autres, beaucoup fonctionnent, fait en sorte que plus on va lire de ce type d'informations erronées, là, plus on va être exposé. Puis il y a plusieurs études qui démontrent un risque réel de la désinformation sur l'intention de vaccination. Tu sais, traditionnellement, là, les gens très critiques ou très opposés au vaccin, on disait que c'était 1 à 2% tout au plus de la population au Québec, au Canada. Mais là, cette proportion-là augmente avec la pandémie puis l'espèce de méfiance globalisée. Mmh. Et donc, ça, c'est fort préoccupant.
Comment on casse la carapace de désinformation des gens qui tombent là-dedans?
C'est très difficile d'un point de vue de santé publique ou populationnel parce que la principale raison qui pousse les gens à aller consulter cette information-là, c'est une méfiance à l'égard des autorités et des sources d'information officielles, incluant les grands médias. Donc, tous nos canaux de communication ne fonctionnent pas pour les rejoindre. Je pense que ce qu'on veut éviter dans une dimension de santé publique, c'est vraiment la contamination ou le fait que ces discours-là prennent plus de place. Maintenant, il y a des façons de rejoindre ces individus-là, mais ça implique des stratégies plus un à un ou individuelles, puis ça demande beaucoup plus d'efforts.
On est avec Ève Dubé, elle est anthropologue et chercheure à l'INSPQ, spécialiste de la perception que les gens peuvent avoir de la vaccination. Autre conférence de presse aujourd'hui à 13h, Ève Dubé, où le trio santé était extrêmement optimiste, extrêmement content des chiffres. Est-ce que vous êtes surpris, disons, des chiffres, des statistiques de vaccination et d'intention de vaccination?
Bien, je pense que je suis agréablement surprise. Maintenant, il faut s'assurer que toutes les intentions favorables se traduisent en action. Donc, rendre la vaccination la plus accessible possible, se rapprocher des communautés. Tu sais, on est toujours dans une approche où les gens ont, tu sais, là, pour atteindre nos objectifs de 75%, il y aura certainement des efforts à faire là, pour aller rejoindre certains groupes un petit peu plus critiques, un petit peu moins motivés. Donc, pour l'instant, on est toujours dans l'offre ne répond pas à la demande, presque, mais éventuellement, au fil des semaines, il risque d'avoir des groupes un petit peu plus difficiles à rejoindre.
Je recevais hier au micro, puis on va déborder un petit peu de la vaccination, là. Je recevais à notre micro Jean-Sébastien Fallu, qui est un professeur-chercheur à l'École de psycho-éducation à l'Université de Montréal, co-signataire d'une lettre dans Le Devoir hier où on demandait un débat sur le couvre-feu. Et je me demandais, le couvre-feu, les autres mesures là, qui nous empoisonnent évidemment la vie, là, comment vous mesurez l'adhésion à l'INSPQ, l'adhésion à ces mesures-là?
Nous, on a des sondages, on sonde régulièrement, là, 3 fois par semaine, l'opinion des Québécois, Québécoises. Puis, évidemment, c'est une mesure qui est controversée puis qui est critiquée dans les réseaux sociaux, dans les médias. Par contre, quand on sonde les gens, c'est 68% au total des Québécois, Québécoises qui sont favorables au maintien du couvre-feu pour les prochaines semaines. Puis, cette proportion-là, elle est même plus grande dans les zones rouges. Donc, on est autour de 70%. Donc, encore 7 personnes sur 10 y sont favorables. Puis quand on parle de respect, là, on est autour de 98% des gens qui disent le respecter parce que, évidemment, je pense que l'effet dissuasif de la contravention est assez important. Donc, il y a toute cette perception-là, mais en même temps, il y a toute une majorité silencieuse que finalement, ce ne sont peut-être pas aussi exaspérés que ça.
Vous parlez des sondages que l'INSPQ fait. Il y a quelques semaines, là, je suis tombé sur le site de l'INSPQ. On présentait des résultats de sondages par région. Les gens répondaient à des questions sur leur perception, sur leur risque, etc. Est-ce que vous avez peur de la COVID? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un dans votre entourage le contracte? Et écoutez, il y avait une curiosité. Dans la région de la Capitale-Nationale, tous les marqueurs montraient que les gens avaient moins peur de la COVID, prenaient ça moins au sérieux. Est-ce que vous avez une idée pourquoi?
C'est une bonne question. On observe des différences régionales. Maintenant, la capitale nationale, comme d'autres régions, a toujours eu une petite tendance un peu plus déviante. Je pense que les grosses éclosions puis le fait d'être passé en zone d'urgence a peut-être remis cette perception du risque-là plus accrue. On observe aussi des différences importantes entre les groupes d'âge. Donc, les plus jeunes ont beaucoup moins peur de la COVID que les groupes plus âgés. Par contre, ils ont plus peur de la transmettre à leur entourage. Donc, je pense que les résultats régionaux sont utiles pour les interventions des directeurs de santé publique pour leur message de communication à la population.
Avez-vous, comme anthropologue, est-ce que vous trouvez que la Beauce est un terrain fascinant présentement?
Oui. En même temps, je suis pas surprise parce que ce qu'on observe depuis le début de la pandémie, c'est que les gens s'adaptent. T'sais, c'est la grande capacité de l'être humain de s'adapter à toutes sortes de situations. C'est ce qui a fait en sorte qu'on est toujours là aujourd'hui. Et plus la perception de la menace est faible, comme c'était le cas parce qu'il n'y avait pas tellement de circulation en Beauce, plus les gens s'adaptent et se permettent des petits écarts et s'auto-justifient ces petits écarts-là. Et donc, ben, ça fait en sorte que rapidement, ben, ça peut tourner mal, comme on l'a vu à Québec, mais comme on l'a vu aussi en Beauce.
Vous parlez de se permettre des petits écarts. Pensez-vous que c'est possible que quelqu'un, depuis 14 mois, ait respecté à la lettre, scrupuleusement, toutes les demandes de la santé publique et de garder une santé mentale qui a du bon sens?
Je pense que ce qu'on observe, nous, c'est que plus les gens adhèrent, meilleure est leur santé mentale, étonnamment. Donc, ils sont moins anxieux, ils ont moins de détresse psychologique. Par contre, évidemment, c'est la perception que la personne a de son adhésion. Donc, c'est sûr que d'un point de vue santé publique, c'est peut-être qu'il y a des écarts, mais la personne n'a pas l'impression de dévier aux normes ou parce qu'elle a compris les consignes autrement, s'autorise certaines choses en se disant « mais je respecte les règles parce que je porte le masque ou parce que c'est ça, chacun ». Fait que tu sais, il y a toute cette dimension-là. Évidemment, l'adaptation, ça nécessite de la flexibilité, puis je pense que c'est pour survivre à toutes ces contraintes-là, il faut se trouver des stratégies, puis chacun a trouvé des façons de garder le moral, mais tout en respectant le mieux possible les recommandations.
Vraiment intéressant. Merci de nous avoir parlé ce soir.
Ça fait plaisir.